Vous le savez, je le sais, je ne serai pas élu. D'autres candidats le seront. Et hélas, nous savons tous que les promesses qu'ils feront devant vous aujourd'hui ne tiendront pour beaucoup d'entre elles que le temps de cette campagne électorale. Et vous savez aussi que, contrairement à d'autres candidats, je ne me présente pas avec un programme complet couvrant toutes les problématiques de la société. Je suis présente dans cette élection pour une et une seule raison, faire entendre la voix et les exigences du monde du travail. Je vous donnerai bien sûr mon avis sur un certain nombre de points qui figurent dans la charte. Mais je veux d'abord souligner que lorsque je m'adresse au monde du travail, je m'adresse aussi à beaucoup de maires qui, dans leur immense majorité, ne sont pas professionnels de la politique. Les maires, mes camarades et moi, nous en rencontrons des milliers lorsque justement nous sollicitons les parrainages. Et nous savons que pour nombre d'entre eux, ils sont ouvriers, fonctionnaires, employés, agriculteurs, infirmières, enseignants, bref, qu'ils sont des travailleurs en activité ou en retraite et qu'ils partagent, de fait, les préoccupations du monde du travail. Ils font partie de cette immense majorité de la population à laquelle je m'adresse, ceux qui, par leur travail, manuel ou intellectuel, font tourner toute la société. Ils ont en plus, bien sûr, un rôle particulier vis-à-vis du monde du travail, celui d'être en première ligne face aux difficultés que rencontrent leurs administrés quand ceux-ci sont frappés par la crise et le chômage. Lorsqu'une usine ferme, lorsqu'une vague de suppression d'emplois survient, il y a toujours un moment où les travailleurs se tournent vers le maire. D'abord pour les aider, pour les soutenir face à leur direction, et lorsque, suite à des licenciements, les habitants d'une commune s'enfoncent lentement dans la pauvreté. Parce que c'est toujours vers le maire que l'on se tourne en premier lieu. On se tourne vers lui parce qu'on est surendetté, parce que l'on est confronté aux coupures d'électricité, parce qu'on est expulsé de son logement et qu'on a besoin d'urgence d'un logement social. Parfois aussi parce qu'on a besoin d'aide pour manger, tout simplement. Et puis, suite à la fermeture d'une grande usine, ce sont ensuite les problèmes des commerçants qui sont menacés de faillite faute de clients dont il faut s'occuper. Vous savez aussi ce que la montée de la pauvreté amène comme déshumanisation dans les quartiers des grandes villes, comme violence dans les rapports humains. Parce que c'est aussi de là que vient l'individualisme, chacun pour soi, les petits trafics ou encore le communautarisme, ou la montée des intégrismes religieux. Et dans les communes rurales, vous subissez tout autant les ravages de la crise. Vous constatez l'abandon par l'État, les services publics qui ferment les uns après les autres, la désertification médicale, les petits agriculteurs étranglés par les grandes firmes de l'agroalimentaire. Alors dans cette campagne, j'explique inlassablement que le chômage est le principal problème, que le chômage est le fléau qui ronge la société et que la plupart des autres problèmes en découlent. Je le dis aux électeurs, comme je le dis à vous, les maires, qui êtes tous concernés à un degré ou à un autre par ce problème. C'est la raison pour laquelle je pense que le combat que je mène, les raisons pour lesquelles je me présente à cette élection et les idées que je défends, peuvent et doivent même trouver aussi de l'écho auprès de vous. Je veux dire aussi que s'adresser aux maires en général n'est pas très simple. Pour nous, à Lutte ouvrière, parler des maires comme une seule et même entité n'a guère plus de sens que de parler des Français en général, comme le font la plupart des candidats. Parmi les Français, il y a des riches et des pauvres, des actionnaires de grandes sociétés, et des gens qui n'ont que leurs bras pour travailler. Et leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Et bien de la même façon, le mot de maire ne veut pas dire la même chose selon la commune que l'on administre. Il y a les maires des grandes métropoles qui ont des milliers d'agents dans leurs équipes, qui ont un budget et parfois un train de vie de ministres. et qui peuvent sans doute payer un certain nombre d'assistantes et d'assistants. Et puis, il y a, de l'autre côté, la majorité des maires, ceux qui administrent de petites communes, quasiment bénévoles, qui consacrent leur temps et leur énergie, souvent en plus de leur travail. Ce sont ces maires de petites communes que tout le monde connaît et tutoie, qui connaissent tout le monde, qui font tout, qui n'ont parfois même pas une secrétaire de mairie pour les aider, en tout cas pas à temps plein. Ce sont eux qui changent les ampoules eux-mêmes dans la salle des fêtes ou qui la nettoient après un mariage. Eh bien, ces maires, et je m'adresse à eux à double titre, celui de travailleurs et celui d'élus qui se débattent pour faire fonctionner leur commune sans beaucoup de moyens, sans aide, et qui sont souvent victimes du même mépris de la part de l'État que le sont toutes les petites gens dans ce pays. Alors, bien sûr, j'ai lu attentivement le manifeste publié par l'Association des maires de France. Et si je le répète, je ne vais pas discuter de chacun des 15 points sur lesquels l'AMF demande un engagement, je voudrais souligner quelques aspects. Le problème essentiel des maires, depuis des années, c'est celui de la baisse des dotations de l'État. Depuis 5 ans, ce sont des dizaines de milliards qui ont été ponctionnés aux collectivités locales. Cela laisse les maires devant des choix qu'ils n'ont aucune envie de faire. Augmenter les impôts, moins investir ou diminuer le service rendu à leurs administrés. Moins de dotations, cela veut dire à terme moins de crèches, moins de présence dans les services des services de la municipalité, moins d'équipements sportifs et culturels, moins de transports, etc. Au bout de la chaîne, c'est encore une fois la population qui subit, et la population la plus pauvre. Parce que les plus riches n'ont pas besoin des services communaux pour faire du sport à leurs enfants, ni pour se déplacer. Et de la part du gouvernement, rogner sur ces dotations est particulièrement cynique, parce que cela permet de faire porter l'impopularité de ces décisions sur les maires, qui, selon une formule célèbre du président du Sénat, sont, je le cite, « à portée d'engueulade ». Alors, quand l'AMF demande à ce que soit garantie la stabilité et la prévisibilité des ressources des communes, je ne peux qu'être d'accord. Et même, j'irai plus loin, en disant qu'il faut exiger que les dotations aux collectivités soient suffisamment augmentées pour permettre non seulement de répondre aux besoins de la population, mais aussi d'embaucher des agents, ce qui est bon pour lutter contre le chômage, et aussi d'investir, notamment dans le logement. Le gouvernement prétend que c'est impossible et qu'il n'y a pas d'argent, je devrais même dire tous les gouvernements, puisque cette politique a été engagée sous la droite, quand celui qui est aujourd'hui le président de votre association était ministre des Finances, et poursuivie sous la gauche. Mais il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a pour arroser les entreprises d'argent public à fonds perdu. Il y en a pour payer le CICE et le pacte de responsabilité. Et cela représente des dizaines de milliards d'euros par an. Eh bien, je l'affirme, une partie de cet argent serait autrement mieux employée à permettre aux collectivités de sortir la tête de l'eau. Pour ce qui concerne les autres revendications de l'AMF, je peux bien sûr en reconnaître le caractère juste dans l'absolu, mais je vous mentirais si je vous disais que je crois possible d'autres rapports entre l'État et les collectivités territoriales. L'AMF parle de la volonté que l'État et les collectivités soient partenaires, qu'ils construisent ensemble des politiques publiques solidaires. Pour que cela soit possible, encore faudrait-il que l'État ait réellement comme but, comme objectif, d'œuvrer pour le bien commun, et ce n'est pas ma vision des choses. Et je crois, malheureusement, que vous constatez, comme moi, tous les jours, sur vos territoires, qu'il n'en est rien. Si l'État œuvrait pour le bien commun, laisserait-il fermer des hôpitaux de proximité et des écoles? Laisserait-il, au nom de la rentabilité, la Poste et la SNCF, disparaître des territoires ruraux? Laisserait-il les maires seuls en face de leurs administrés frappés par le chômage et la montée de la pauvreté? Bien sûr que non. L'État, j'en suis convaincue, n'est hélas pas là pour ça. Nous sommes dans une période de crise profonde de l'économie. Et dans ce contexte, plus encore qu'en temps normal, la préoccupation essentielle de l'État, c'est de permettre aux grandes entreprises de préserver leurs profits. Et pour ça, il est non seulement prêt à dépenser sans compter, mais à asphyxier, à étrangler le reste de la société, à commencer par les collectivités les plus fragiles que sont les communes. Souvenez-vous de la crise de 2008, quand les grandes banques étaient en danger. L'État avait alors été capable de débourser en quelques jours des centaines de milliards d'euros. Eh bien, le même État qui aujourd'hui se dit impuissant face à la désertification médicale et laisse mourir à petit feu des territoires entiers et leurs habitants applique une politique qui n'est rien d'autre qu'une politique de classe. Je ferai le même raisonnement sur le principe de libre administration des collectivités que l'AMF souhaite voir confortée. Ce principe est peut-être inscrit dans la Constitution, mais par bien des aspects, il reste un leurre. Parce qu'administrer librement sa commune, quand pèsent toutes les contraintes économiques et financières qui existent aujourd'hui et qui viennent d'en haut, eh bien c'est souvent mission impossible. Ceci étant dit, je suis opposée à l'idée qui s'exprime de plus en plus dans les programmes de nombreux candidats et dans les politiques publiques menées depuis des années. Je suis opposée donc au projet de réduire par force le nombre de communes et de dissoudre et je suis contre dissoudre, si l'on peut dire, les communes dans l'intercommunalité. Si je suis évidemment favorable à l'idée de mutualiser les équipements entre communes quand c'est possible et que cela représente, que cela ne représente pas un recul du service public. Je suis en revanche opposée à la disparition des communes que voudraient tant imposer un certain nombre de dirigeants politiques. La commune reste aujourd'hui une structure où s'exerce une forme de démocratie locale, ne serait-ce que par la proximité entre le maire et les habitants. Par le fait que dans bien des endroits, les élus du conseil municipal sont de simples citoyens engagés et non des politiciens professionnels. Par le fait que les habitants d'une commune peuvent plus facilement contrôler ce qui est fait par l'équipe dirigeante. À Lutte ouvrière, nous sommes partisans de la plus grande participation possible de la population elle-même aux affaires publiques. Et le déplacement de la gestion locale vers les intercommunalités, toujours plus grandes, toujours plus éloignées des habitants, revient finalement à un recul démocratique. Pour conclure, je voudrais répéter qu'au-delà de ces considérations générales, je suis certaine que beaucoup des problèmes que rencontrent les maires ne trouveront pas de réponse institutionnelle dans le cadre de ce système économique. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont finalement les mêmes que ceux qui frappent toute la société, l'appauvrissement général de la population et le délitement des liens sociaux qui l'entraînent. Ce sont des problèmes économiques qui ne seront pas résolus tant que la société restera gouvernée pour le service exclusif des plus riches, des plus privilégiés. Et cela ne changera pas lorsque l'un de ceux qui se seront exprimés devant vous aujourd'hui arrivera à l'Élysée. Cela changera seulement à travers de larges mobilisations sociales ayant pour objectif de transformer cette société.
Bon. Ding.
Voilà, alors, c'est ce que je porte dans cette campagne présidentielle. Vous l'avez bien compris. Ding.
Le temps imparti a été un petit peu dépassé, mais ce n'est pas très très grave. Nathalie Arthaud, maintenant, vous allez devoir répondre. Vous avez 7 minutes, pas une de plus, peut-être même 6,50 pour répondre aux questions venues de la salle. La première question émane de Marie-Claude Jarreau. Elle est présidente de l'Association des maires de Saône-et-Loire et maire de Monceau-les-Mines. Marie-Claude, c'est à vous.
Bonjour, Madame Nathalie Arthaud. Lorsque les habitants d'une commune sont désespérés parce que leur petite fille et où leur petit-fils, et où leur sœur, leur frère, et où leur conjoint, ou tout simplement eux-mêmes, sont sans emploi, Ils viennent, et vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, ils viennent voir leur mère, qui, dans la vraie vie, se trouve confrontée à cette situation au quotidien. Face à cette situation douloureuse, les maires, de la plus petite commune à la plus grande commune, imaginent et mettent en place des solutions. L'un, privilégiant l'emploi lors d'un marché public, bien sûr dans le respect de la réglementation. L'autre, optant pour un dispositif d'accès à l'emploi par le sport. Un autre, sollicitant ses relations, ses connaissances, prenant son téléphone pour demander à l'artisan, l'entrepreneur de sa commune d'embaucher. Un autre encore, maintenant un dialogue permanent au quotidien avec Pôle emploi. La réalité du terrain est celle-ci, Nathalie Arthaud. Les maires sont en première ligne avec leurs habitants pour lutter contre le chômage. Mais nous avons besoin de soutien. Au-delà du soutien financier, nous avons besoin d'être reconnus au plus haut niveau de l'État comme de véritables partenaires. C'est d'ailleurs l'esprit des principes 2 et 3 de notre charte. Nous avons besoin de construire avec l'État.
Les gens, messieurs et madame les maires ici, attendent la question.
Nous avons besoin de construire avec l'État des politiques publiques pour un développement dynamique et solidaire de nos territoires. Quelle est votre position, madame, sur ce sujet ? Les maires, véritables partenaires pour l'emploi. Je vous remercie.
Merci, madame la maire de Monceau-les-Mines. Alors, je l'ai dit, et c'est même la raison d'être de notre présence dans cette campagne électorale, que de dénoncer le sort qui est fait aujourd'hui au monde du travail et qui prive des millions de femmes, d'hommes, de jeunes, de personnes qui sont parfois invalides ou handicapées, de leur droit le plus élémentaire, le plus strict, celui de pouvoir gagner leur vie avec un emploi et avec un salaire correct. Cela fait partie de notre combat fondamental. Mais nous pensons que la clé de cela n'est pas dans les mains, effectivement, des maires des communes que vous êtes et qui, en réalité, sont mis devant le fait accompli de la fermeture des usines, des suppressions d'emplois, qui n'ont jamais leur mot à dire face à cela, tout simplement parce que ces décisions sont prises dans le plus grand secret des conseils d'administration, des grands groupes capitalistes qui dominent l'économie et la société. Et c'est exactement cela que nous dénonçons. J'entends beaucoup de promesses dans cette campagne électorale pour l'emploi, pour réindustrialiser le pays. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis septembre, je sillonne le pays. Je suis allée dans de très nombreuses villes. Je peux vous dire que dans toutes les villes, dans toutes les régions où je suis allée, il y a des fermetures d'usines, il y a des fermetures d'entreprises, et pas seulement des petites, et pas seulement des petites. Vous avez entendu parler d'Alstom à Belfort, qui n'est absolument pas sauvé, qui au contraire continue d'être vidé de ses salariés. Vous avez entendu parler sans doute de l'ex-CETA à Rion, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une mobilisation, y compris des maires de la région, des petits commerçants, des artisans, des salariés. Vous avez entendu parler de la fermeture de l'usine Logo dans le Jura. Vous avez entendu parler des licenciements chez Neuilly-aux-Eures, à Neuilly-aux-Eures dans cette ville de Lorraine, cette boulangerie industrielle qui dépend du groupe Soufflé. Eh bien, moi, je pense que la première des choses, c'est d'arrêter cela. Plutôt que de dire que l'on va réindustrialiser, il faut arrêter cette désindustrialisation, arrêter toutes ces fermetures d'usines, à commencer bien sûr dépendant de tous ces groupes qui sont riches par milliards, qui prospèrent, qui ont accumulé des bénéfices inouïs ces dernières années. Donc Moi, je crois qu'il est vain de considérer que ces grands groupes capitalistes qui dominent toute la vie sociale et qui effectivement ravagent des régions entières. Moi, j'ai dans la tête ce qui se passe à Amiens, par exemple, avec encore la fermeture de Whirlpool, mais qui fait suite à la fermeture de Continental, de Goodyear. Eh bien, je crois qu'il est vain de chercher à être partenaire avec ces grands groupes qui ne jurent que par leur profit, que par leur rentabilité, que par leur cours boursier. Je pense qu'il y a un combat à mener, effectivement, pour que ces grands groupes capitalistes respectent non seulement les salariés, non seulement les travailleurs, mais en réalité toute la société. Nathalie Parce que Arthaud, je pense que le sort des travailleurs, des commerçants, des artisans et des territoires ruraux est profondément lié. Il y a un combat à mener. Et moi, je pense que ce sont les travailleurs qui sont à même, effectivement, de le mener, ce combat.
C'était juste pour vous dire un mot. Les 7 minutes, c'est pour les réponses aux deux questions. Voilà.
Et là, donc, j'en suis à la moitié.
Et bien là, il vous reste 3 minutes. Donc, il faudra faire court pour la seconde.
Je vous remercie. Donc, passons à la seconde question.
Alors, la seconde, cette fois-ci, elle est côté court. C'est Armelle Botrel, qui est présidente de l'Association départementale des maires de Côte d'Armor. Et précisément, j'espère que je prononce bien, maire de la Mogon.
De la Méogon.
De la Méogon. Je n'avais pas l'accent sur ma fiche. C'est à vous.
Merci. Bonjour, Madame Nathalie Arthaud. Les services publics de proximité constituent une préoccupation importante pour nos concitoyens. L'Association des maires et présidents d'intercommunalité des Côtes d'Armor, que j'ai l'honneur de présider, a signé en 2010 avec le préfet, le président du conseil régional, le président du conseil général à l'époque, une charte pour l'organisation, la gestion, la promotion des services de proximité publics comme privés. Et dans les études préalables à la rédaction de ce document, la thématique de la santé arrive largement en tête des préoccupations des ménages costarmoricains enquêtés. Le manifeste des maires de France et des présidents d'intercommunalité défend l'idée que la politique de la santé doit favoriser l'égalité d'accès aux soins des habitants, de même que les territoires doivent s'impliquer pour soutenir des actions innovantes portées par les élus locaux en lien avec un réseau hospitalier, s'appuyant sur un maillage territorial et coordonné des professionnels de santé afin de faciliter l'accès des populations à une offre de soins de qualité, en proximité, même, mes chers collègues, si cela relève de la compétence de l'État.
À ma gauche, on demande la question.
Donc, la question, Madame Arthaud, dans votre programme, vous constatez également que l'accès aux soins est de plus en plus difficile pour une grande partie de la population. Alors, la question, que proposez-vous pour que les Françaises et les Français bénéficient d'un accès à une offre de soins de qualité et de proximité ?
Merci pour la question. Madame la maire, je partage cette préoccupation, évidemment. D'abord, je la connais parfaitement parce que je suis originaire d'un petit village dans la Drôme, et dans la Drôme des Collines, la Drôme du Nord. Et je peux vous dire qu'effectivement, un rendez-vous pour un ophtalmo, c'est un an. C'est un an. Donc un an où vous devez vous débrouiller sans pouvoir bien voir. Et puis, voilà, dès que vous êtes atteint d'une maladie grave, eh bien, ça veut dire faire des 100 kilomètres, ça veut dire aller sur Lyon, ça veut dire se déplacer dans des conditions très pénibles, très difficiles, parce que, oui, on est malade. Donc, effectivement, je pense que c'est une préoccupation essentielle, essentielle. Cette désertification médicale, la fermeture des hôpitaux de proximité, le problème de leur perte aussi de compétences, de capacités d'accueil. Donc moi je pense que oui, il faut mettre les moyens, que cela devrait être une priorité pour l'État. C'est encore une fois une question de moyens et on ne peut pas s'accommoder de beaux discours. Quel est l'argent que l'on veut mettre dans ce domaine-là ? Et moi, ce que je constate, c'est que l'État ne veut pas mettre plus d'argent dans les hôpitaux, dans la santé. Ce que je constate, c'est que depuis des décennies, ce sont des suppressions d'emplois, des suppressions de lits, qu'on cherche à payer moins les transports en ambulance. Donc oui, moi, je crois que l'argent public devrait d'abord et avant tout servir à ça. Que la santé, une santé de qualité, accessible à tous à l'échelle d'un territoire, c'est un élément de mesure d'une civilisation. Donc moi, je suis pour que l'argent soit mis prioritairement là. Et ce que je constate et ce qui me révolte, c'est de voir tout l'argent que l'État peut dépenser pour des cadeaux au grand patronat. Ce qui me révolte, c'est de voir tout ce que l'État peut dépenser pour acheter des rafales. Oui, pour acheter de l'armement. Je ne crois pas que tout ça, ce soit des priorités. Je ne pense pas que voir la fortune d'un Dassault augmenter de plusieurs dizaines ou centaines de millions par an, cela soit un progrès pour l'ensemble de la société. Je pense que les 41 milliards accordés au nom du pacte de responsabilité par le gouvernement Hollande ont été de l'argent dépensé à fond perdu. Pas pour tout le monde, vous me direz. Non, sans doute qu'on en retrouve un bon paquet dans les milliards des profits annoncés par les entreprises du CAC 40. Mais pour nous, pour l'ensemble de la population, cela a été des milliards dépensés à fond perdu, effectivement. Et j'ai fait le calcul. 41 milliards, c'est plus d'un million d'emplois payés à 1 800 euros, charges comprises. Cotisations sociales comprises, eh bien c'est 1 million d'emplois. Oui, je crois qu'ils auraient été nécessaires dans les communes rurales pour développer eh bien, des maisons de santé et pour renforcer les hôpitaux de proximité qui existent et qu'on essaye aujourd'hui de fermer.